Il est 8 heures. Le journal, Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Taxe d'habitation, l'exécutif entre dans le dur. Le chef de l'État au Sénat devant des parlementaires alarmés. Objectif convaincre, rassurer des collectivités locales. Vent debout face au coup de rabot de leurs principales ressources. Économie encore, 330 millions en moins pour l'enseignement supérieur. On en parle avec votre invité à 8h20,
Pierre. Oui, Frédérique Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, elle lance aujourd'hui la concertation sur une réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, objectif des solutions pour la rentrée universitaire 2018. Vos questions pour Frédérique Vidal dans Interactive au 01 45 24 7000. Ce sera à partir de 9h-20.
Travail du dimanche, Bricorama rabote les avantages, colère des salariés qui rencontrent le patron aujourd'hui. Angela Merkel hier soir à la télévision allemande, pas de promesse aux électeurs du sérieux. Peut-il rester à son poste, recadrer et maintenant convoquer le chef d'état-major des armées dans le bureau du président vendredi? La série de tous les superlatifs, Game of Thrones, saison 7, sortie cette nuit. Et lui, il est le champion de tous les superlatifs Federer, 8e victoire à Wimbledon, unique.
France Inter.
Conférence nationale des territoires, le titre est ronflant pour une grand-messe inédite. Elle s'ouvre ce matin au Sénat par le Premier ministre et fait très rare. Le président de la République sera dans l'enceinte du Palais du Luxembourg cet après-midi. Discours devant les sénateurs pour clore donc cette conférence, car l'affaire est importante. Le Sénat, ce sont les collectivités locales. Il s'agit de les rassurer sur l'avenir de leurs principales ressources fiscales. La taxe d'habitation, elles sont très inquiètes, alarmées même. Que va devenir leur principale ressource fiscale? La taxe d'habitation, 80% des Français sont exonérés, entrée en vigueur dès 2018, progressive. Mais d'un coup, ce sera tout de même 3 milliards en moins pour les finances locales. Et après 4 ans consécutifs de baisse des dotations, les sénateurs sont vent debout entre de sa bague.
On ne laissera rien passer qui ne soit pas calculé. Hier, dans le journal du dimanche, le président du Sénat, Gérard Larcher, a donné le ton de l'accueil qui sera fait à Emmanuel Macron. Les sénateurs sont pour beaucoup inquiets. Eux qui représentent les collectivités locales sont lassés de voir l'État demander chaque année des économies. Et voilà qu'arrive donc la suppression de cette taxe. Éric Bocquet est sénateur communiste et maire d'une commune de 2000 habitants dans le Nord.
La taxe d'habitation, je comprends que ça puisse être populaire pour les contribuables, mais pour les communes, c'est un vrai sujet d'inquiétude, bien sûr, une perte de ressources nettes.
Emmanuel Macron dit on va compenser.
Oui, alors on connaît cette chanson. Effectivement, l'État compense quelques années et puis au bout, on nous explique que il n'y a plus d'argent pour compenser et donc il faudra se débrouiller. On a vécu ça dans le passé.
Dans son programme, Emmanuel Macron réclamait 10 milliards d'économies aux collectivités locales sur 5 ans. Mais pour ne pas braquer les élus aujourd'hui, il devrait leur promettre davantage de visibilité et d'autonomie de gestion. De quoi peut-être s'assurer un meilleur accueil dans ce Sénat où la droite reste majoritaire.
Le Sénat décidément peuplé de résistants. La semaine dernière, il a voté à reculons l'interdiction des emplois familiaux au Parlement. Aujourd'hui, accueil sourcilieux, on l'a vu, de l'exécutif. Et puis demain, nouvelle fronde peut-être à prévoir dans le cadre de l'examen du projet de loi antiterroriste, puisqu'en commission des lois, les sénateurs ont refusé la semaine dernière de faire entrer l'état d'urgence dans la loi ordinaire. La loi travail, les députés ont voté la semaine dernière, le gouvernement est donc maintenant habilité à réformer par ordonnance. Reste à négocier le contenu de ces ordonnances avec les partenaires sociaux, syndicats, patronats. La ministre du Travail va donc poursuivre cette semaine la concertation, et ce n'est pas un gros morceau, mais plusieurs gros morceaux qui arrivent sur la table, notamment le plafonnement des indemnités prud'homales ou encore le périmètre géographique des difficultés d'une entreprise pour qu'elle licencie. Pour adoucir ce climat, Muriel Pénicaud a annoncé la hausse des indemnités légales de licenciement. Actuellement, elles sont parmi les plus basses d'Europe.
Bernadette Chamonaz, travail du dimanche, avantage raboté à Bricorama.
Et les salariés sont furieux. Travailler le dimanche chez le spécialiste du bricolage valait triple salaire. Le PDG Jean-Claude Bourrelier, fervent défenseur du travail dominical, n'avait pas lésiné sur les avantages. Mais voilà qu'il change d'avis. Le dimanche ne sera plus trois fois plus, mais deux fois plus seulement. Houleux, sans doute, donc, aujourd'hui, le comité central d'entreprise, d'autant Édouard Marguet que les syndicats soupçonnent le patron de préparer la vente de sa société.
Sacrifier son dimanche a des limites chez Bricorama. Jusque-là, 7 employés sur 10 appréciaient gagner triple. environ 100 euros de plus par dimanche. Mais depuis le 1er mai, ça ne vaut plus le coup selon certains.
Moi j'ai arrêté de travailler les dimanches parce que justement ça ne me rapportait plus rien en fait. Donc je préfère retourner dans ma vie de famille tranquille. Ouais, c'est un peu du foutage de figure entre guillemets.
Ils ne seront plus payés triple mais double. La direction applique en fait l'accord de branche, celui permis par le décret Macron de 2014. À cause, dit-elle, de la situation économique tendue, la CFDT est déçue de ce revirement.
Les salariés, par exemple, ne sont absolument plus satisfaits et commencent à boycotter les dimanches.
Alain Lenné est délégué CFDT et selon lui, le PDG de Bricorama, Jean-Claude Bourrelier, est tout simplement en train de préparer la vente.
En baissant sa masse salariale, ça lui permet justement de mieux vendre son entreprise. Pour moi, clairement, c'est ça. Et en plus, obligatoirement, on risque aussi de perdre tous nos acquis sociaux. Parce que les mousquetaires, c'est un groupe de franchisés. Donc voilà, donc il n'y a pas d'accord de groupe dans des groupes de franchisés.
Les syndicats demanderont la nomination d'un expert comptable et d'un avocat pour les aider sur le sujet.
CCE à 10h, Bricorama, c'est 2800 salariés en France. À l'étranger, l'opposition se félicite du succès du référendum organisé contre le pouvoir Maduro. On a eu les résultats il y a quelques instants. Plus de 7 millions de votants, soit le quart des habitants du pays. C'est énorme et c'est significatif de la colère qui monte donc au Venezuela. Plus de 3 mois de manifestations quotidiennes contre un État jugé autoritaire et contre aussi le marasme économique du pays.
8h06, le journal Bernadette Chamonas. Bernadette, Angela Merkel en direct hier soir à la télévision pour s'adresser aux Allemands.
Aux électeurs allemands, car dans 10 semaines, ce seront les élections législatives et elle espère bien, la chancelière, faire un quatrième mandat. Alors pour cela, elle a une méthode, Angela Merkel, cultiver le sérieux. Pas de promesses hier soir à la télévision, David Philippot, défense du bilan, alors que le même jour, son adversaire social-démocrate, Martin Schulz, présentait un programme économique tourné, lui, vers la relance et les investissements.
Son principal rival a proposé un plan en 10 points avec notamment un investissement public garanti. Question de la journaliste, au vu des appels partout en Europe pour réclamer plus d'investissements de l'Allemagne, Angela Merkel défend son bilan.
Nous avons investi dans le haut débit et 40% de plus dans l'entretien des routes.
Avant de promettre, après 3 années d'excédent budgétaire,
sur nos excédents, nous pourrions en investir un tiers, voire plus pour les familles et pour la jeunesse. Mais quand on regarde les comptes, il faut des limites et rester sérieux et crédible.
Car une bonne partie de l'argent va aussi servir à accueillir les réfugiés. 2 ans après sa décision d'ouvrir les frontières, Angela Merkel veut éviter qu'un tel scénario se reproduise, mais résiste à son aile droite qui veut un quota annuel de réfugiés.
Notre position est claire, je n'accepterai pas les quotas. Nous préférons mieux organiser l'accueil et combattre les causes de la migration. C'est ainsi que nous atteindrons nos objectifs.
En retard de 13 points dans les sondages, son rival Martin Schulz sera jeudi à Paris pour rencontrer le président Macron. Berlin, David Philippot pour France Inter.
Corée, la main tendue du sud au nord, Séoul propose des discussions militaires inédites depuis 2015 et un arrêt des activités hostiles à proximité de la frontière. Du jamais vu sous la 5e République, un recadrage sévère qui pulsait veille du défilé militaire de la fête nationale. Le chef d'État qui dit publiquement à son chef d'état-major des armées, c'est moi le chef. Le tort du général Pierre de Villiers, avoir critiqué les coupes budgétaires de la défense. Et l'affaire n'est pas close, car recadrée est maintenant convoquée, Nathalie Hernandez, vendredi 18h à l'Élysée.
C'est une simple phrase dans l'agenda présidentiel. 18h, entretien avec le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées. Rien d'autre ne filtre sur ce rendez-vous qui pourrait prendre la tournure d'un quitte ou double. Quitte s'il subsiste des dissonances entre les deux hommes. Pour Emmanuel Macron, interrogé hier par le JDD, si quelque chose oppose le chef d'état-major des armées au président de la République, le chef d'état-major change. Même s'il vient d'être reconduit pour une année. Pour un double, à 60 ans, le général de Villiers devra donc arrondir les angles à son corps défendant, car son mouvement de colère, face à des coupes budgétaires conséquentes, a eu lieu à huis clos à l'Assemblée. Et le recadrage du chef de l'État la veille du 14 juillet a choqué bon nombre de militaires. Il a fait aussi réagir des politiques de tous bords sur les réseaux sociaux, de la France insoumise avec Alexis Corbière, pour qui les conséquences de l'austérité sur l'armée sont intolérables, au président Les Républicains de la région PACA, Renaud Muselier parle d'un militaire exceptionnel qui ne doit pas démissionner.
Nathalie Hernandez, malveillance ou imprudence à Saint-Cana près d'Aix-en-Provence, c'est sans doute un mégot mal éteint qui a provoqué l'incendie de ce week-end, le premier gros de l'été dans le sud. 800 hectares ravagés, une maison et un hangar brûlés, mais plusieurs maisons aussi sérieusement menacées. 800 pompiers sont toujours sur place. Des précisions avec le maire de Saint-Cana, Jackie Gérard, joint par Guillaume Fariol.
Le dispositif reste en place pour la journée, donc avec 750 hommes et effectivement tout le matériel de manière à ce qu'il n'y ait plus de reprise de ces feux avec les conséquences que l'on connaît. Donc, s'il le faut, je pense que cela pourra continuer encore au moins 2 jours pour empêcher toute reprise. C'est ce qui est primordial maintenant.
Comment éviter qu'un tel incendie se reproduise ?
Beaucoup de prévention, beaucoup de prépositionnement dans les massifs. Et puis, bien sûr, il y a des campagnes au niveau donc départemental, interdépartemental, de manière à ce qu'il y ait vraiment une action globale sur l'ensemble des visiteurs de nos secteurs.
Le maire donc de Saint-Cana, où l'incendie est toujours sous surveillance. Un bloc de béton sur la voie à hauteur de Surgères en Charente-Maritime. Le TGV Paris-La Rochelle qui arrive à près de 200 km/h. C'est la collision hier soir. Heureusement, le train n'a pas déraillé. Il n'y a aucun blessé parmi les 173 passagers. Mais les dégâts sur la rame sont importants et la SNCF ne s'explique pas la présence de ce bloc sur la voie. Pour elle, pas de doute, c'est un acte de malveillance. Elle va portez plainte. Et maintenant, écoutez, vous allez reconnaître. Eh oui, vous l'avez reconnu. En tous les cas, Anthony Bélanger l'a reconnu. Il y a forcément parmi les auditeurs de France Inter des fans. Le générique de Game of Thrones, 7e saison de la série sortie aux États-Unis et en France en même temps, 3h cette nuit. Les fans étaient sur OCS City. Qui aurait dit que cette fresque pleine de costumes, de dragons, d'une palanquée de personnages au nom imprononçable deviendrait une série culte, la plus piratée au monde, plus de 23 millions de téléspectateurs sur la planète. Aux États-Unis, c'est la folie. Un bar vient même d'ouvrir, il est consacré complètement à la série, il y a ouvert il y a quelques jours, et des centaines de fans s'y pressent chaque jour, Philippe Rendé.
Debout sur un trottoir sous une pluie battante, Jenny essore le bas de sa robe pendant que John essaie de se protéger sous un parapluie. 1h30 qu'ils attendent et l'entrée du bar est encore à plusieurs dizaines de mètres.
On est complètement fous. Ils ont commandé la pluie pour nous, mais on reste fort. On va se souvenir de ce moment toute notre vie. On a payé très cher le coiffeur et en fait on a les cheveux trempés.
Game of Thrones, c'est une série tellement populaire, avec une histoire incroyable et plein de rebondissements. En plus, on voit des seins et il y a du sexe.
À l'intérieur du bar, pas de sexe, mais un labyrinthe de 5 pièces où les fans peuvent déambuler entre le trône de fer et l'arbre sacré, le tout agrémenté de cocktails en référence avec la série, pour le plus grand bonheur d'Angela.
C'est comme Disneyland, mais pour les plus de 21 ans. Il y a un cocktail qui s'appelle Shame, honte, avec de la tequila. Ils agitent la cloche en criant « Shame, shame !» Ça rappelle une scène de la série, ça marche vraiment bien.
Pourquoi cette série est si importante pour vous ?
On passe par toutes les émotions, t'as le cœur brisé, puis tu es heureuse. C'est comme quand tu sors avec un très mauvais garçon, c'est les montagnes russes.
Et le bar est ouvert tout l'été jusqu'à 1h du matin, sauf le dimanche où il ferme à 19h pour permettre aux fans de rentrer chez eux, regarder les épisodes diffusés ici à 21h. Washington, Philippe Rendé, France Inter.
Et donc la sortie de la 7e saison de Game of Thrones, le Tour de France, 4 coureurs en 29 secondes après 15 étapes, podium le plus serré de l'histoire du Tour de France. Christopher Froome est en jaune, mais il n'a que 18 secondes d'avance sur Aroux, 23 secondes sur Bardet, le Français, et 29 sur Rigoberto Urán. Un héros dans son genre pour un champion hors norme, Roger Federer, pour la 8e fois vainqueur à Wimbledon, 19e tournoi majeur, une victoire en plus de main de maître, pas un set perdu pendant le tournoi. Ovation debout hier à Wimbledon, Guillaume Batin.
Le trophée dans une main, le micro dans l'autre, les yeux rougis par l'émotion, Roger Federer ne réalise pas qu'il vient de décrocher une 8e victoire à Wimbledon.
J'en ai rêvé, j'y ai cru, 8 fois, c'est fantastique.
Une victoire qu'il prépare depuis son élimination en demi-finale il y a un an, selon l'ancien joueur français Fabrice Santoro.
Quand il a mal au genou, et il avait 2 options, c'était soit je vais avoir 35 ans dans quelques semaines, J'ai mal au genou, je suis à 70-80%. Bon, j'ai plus rien à prouver, donc je fais encore un an et demi, puis si ça se dégrade, j'arrête. Et puis de toute façon, j'ai déjà gagné 17 grands chelems et puis la vie est belle. Ou alors le pari de l'immense compétiteur, vous n'allez plus me voir pendant 6 mois et je vais revenir encore plus fort et je vais aller chercher d'autres grands chelems. Et rien que dans le dire ça, j'ai la chair de poule en fait. Parce que le 99 champions sur 100 auraient pris la première option. Eh bien lui, il est différent.
Roger Federer va prendre quelques jours de vacances. Il disputera dans un mois le tournoi de Cincinnati aux États-Unis avant l'US Open à New York et un 20e titre en Grand Chelem qui lui tend les bras.
Thank you everybody. Thanks to the family. Thanks
merci
to the
à ma famille, merci à la Suisse, merci à tous.
Ladies and gentlemen, Wimbledon champion Roger Federer.
Wimbledon, Guillaume Batin, France Inter.
Et Federer sur le trône, ça vaut un salut en musique.
Et voilà, Game of Thrones, la série préférée d'Anthony Bélanger. Mais c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de géopolitique dans Game of Thrones.
Exactement.
On pourrait faire des papiers à longueur de journée pour analyser ces conflits entre royaumes.
Ils existent d'ailleurs.
Absolument, il est 8h16, c'était le journal de Bernadette Chamonaz.